Michael Pange, bonjour. Vous présentez le rendez-vous d'Haïti et des Amériques.
Bonjour Gilles, il est 9h10 à Washington. Le retour du pivot asiatique. Joe Biden replace l'Indo-Pacifique au cœur de sa politique étrangère. Le président américain accueille depuis hier à la Maison-Blanche les dirigeants de l'ASEAN. On décrypte avec notre invité. L'émotion et la justice réclamées au Chili après la mort d'une journaliste blessée lors des manifestations du 1er mai dernier. Et puis dans une quinzaine de minutes, le journal de la première, Tiziana Marone, avec cette alerte du GIEC. La Guadeloupe est menacée de submersion.
Et oui, et nous irons à l'île Carrette, exemple de cette menace qui guette l'archipel guadeloupéen.
Rendez-vous dans une quinzaine de minutes, donc Tiziana, bienvenue à tous. Les flashs des appareils et le chant des oiseaux dans les jardins de la Maison-Blanche hier après-midi à Washington pour la photo de famille. Joe Biden reçoit donc depuis ce jeudi les représentants des pays de l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, pour un sommet spécial. Malgré la guerre en Ukraine, il remet donc, on le voit, l'accent sur l'Asie. Son objectif, évidemment, réaffirmer les intérêts des États-Unis dans cette région au cœur des tensions avec la Chine. Pour en parler, Jonathan Paquin, chercheur et professeur au département de sciences politiques de l'Université Laval à Québec. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous du Canada. Alors, je le rappelle rapidement, la liste des pays qui composent l'ASEAN, Indonésie, Vietnam, Birmanie, Philippines, Cambodge, Laos, Thaïlande, Malaisie, auquel on ajoute Singapour et Brunei. Alors, un sommet, je le disais, en pleine invasion en Ukraine, ce n'est sans doute pas complètement anodin non plus. L'ASEAN a toujours défendu une politique de non-alignement. Est-ce que l'on peut imaginer, Jonathan Paquin, que Joe Biden cherche là à faire revenir ces pays sur leur dogme de non-alignement pour les convaincre, et bien finalement, de se rallier à la cause occidentale?
Je pense que c'est l'objectif de Biden. Maintenant, Joe Biden sait très bien que l'ASEAN est une organisation qui est très décentralisée. Il sait très bien que les membres de cette organisation que vous avez mentionnée il y a quelques secondes à peine ont des intérêts variés. Et donc, je doute que Biden croit sincèrement être en mesure d'obtenir de l'ASEAN un appui formel, par exemple, dans le cadre de la guerre qu'il mène aux côtés des Ukrainiens en Europe, ou encore un appui formel pour dénoncer les pratiques de la Chine dans la région de l'Indo-Pacifique. Je serais très, très surpris que ça se produise.
Peut-être on peut d'ailleurs y voir aussi une tentative de convaincre ces pays avec la tournée qui a eu lieu il y a quelques jours du Premier ministre japonais allié des États-Unis dans la région. C'est peut-être aussi à mettre en perspective.
Oui, oui, tout à fait. Et je pense que ce qu'il faut garder en tête, bien sûr, pour revenir à cette question stratégique des États de l'ASEAN, c'est que ce sont des États qui pratiquent depuis fort longtemps une ambivalence stratégique. Peut-être que le seul élément que tous ces membres ont en commun, c'est leur volonté de réduire les tensions entre la Chine et les États-Unis. Mais parallèlement, ce que ces États souhaitent obtenir des États-Unis, ce sont des garanties de sécurité. Donc, ils obtiennent énormément d'aide économique, financière de la Chine. Ils en obtiennent aussi beaucoup et de plus en plus des États-Unis. Donc, ils jouent un peu sur les deux tableaux, ces membres de l'ASEAN. Mais fondamentalement, ils craignent vraiment un embrasement dans la région Indo-Pacifique et c'est ce qu'ils cherchent à éviter à tout prix.
On va revenir sur ces investissements et sur cette question de l'économie. Juste, effectivement, comme vous le mentionniez, Jonathan Paquin, l'objectif premier dans cette zone pour les États-Unis est de contrer l'influence chinoise. C'est la première fois, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que les dirigeants de l'ASEAN sont reçus à la Maison-Blanche, même la deuxième fois seulement sur le sol américain. C'est extrêmement symbolique, justement, pour essayer de faire bloc, de montrer qu'il y a une unité là face à la menace et aux géants chinois.
Oui, alors c'est d'abord et avant tout symbolique parce que les annonces économiques dont nous pourrons parler dans quelques instants sont faites qu'il y ait ou non un sommet. Ce qui est symbolique, ce qui est très important ici, c'est que vous avez raison de le mentionner, c'est la première fois que tous les membres de l'ASEAN, tous sauf le Myanmar, parce qu'il y a eu un coup d'État et que la Birmanie n'a pas été invitée à l'événement, mais tous les autres sont présents, ils sont invités pour la première fois à la Maison-Blanche. C'est le deuxième sommet qui a lieu avec les Américains sur le territoire américain. Le premier, c'était à l'époque du président Obama. Il a eu lieu en Californie. Mais donc là, ils sont reçus vraiment en grande pompe au bureau ovale, à la Maison-Blanche. Et c'est, disons, très, très symbolique.
Parce que ce pivot asiatique, cette politique du pivot asiatique initiée par justement Barack Obama, c'est véritablement la stratégie de Joe Biden. Vous pouvez nous en dire un mot peut-être?
Oui, oui, absolument. Alors, en novembre 2011, il y a plus de 10 ans maintenant, le président Obama annonce, avec sa secrétaire d'État Hillary Clinton, son pivot stratégique vers la région Indo-Pacifique. Ce que ça signifiait, c'est que le président Obama souhaitait investir davantage de ressources militaires, mais aussi économiques et sécuritaires dans le domaine du bassin Pacifique. Et ça suggérait que l'administration Obama, à l'époque, cherchait à tourner le dos, en quelque sorte, aux enjeux moyen-orientaux, aux enjeux européens. Bon, cette importance de l'Indo-Pacifique, c'est demeuré sous le président Trump, quoique l'accent était davantage mis sur cette guerre commerciale avec la Chine. Et puis, depuis l'arrivée de Joe Biden à la présidence des États-Unis, il a signifié à de très nombreuses reprises que son objectif numéro un, c'était de lutter contre l'ascension militaire, l'ascension des revendications, disons, chinoises dans la région Indo-Pacifique. C'est vraiment le cœur de sa politique étrangère. Et donc, l'Ukraine et la Russie sont venus, en quelque sorte, au cours des derniers mois, détourner le sens de sa politique étrangère. Et donc, ce que Biden nous rappelle aujourd'hui, c'est que, eh bien non, fondamentalement, c'est le Pacifique qui occupe peut-être pas le plus clair de ses journées actuellement pour des raisons évidentes avec la Russie, mais qui occupe le cœur de sa politique étrangère et que ça sera toujours le cas au cours des prochaines années.
D'un point de vue sécuritaire, hein, est-ce que les États-Unis peuvent compter uniquement sur l'ASEAN ou bien voit-il plus large? Et là, je pense par exemple au fameux AUKUS, cet accord donc de sous-marins nucléaires qui a été passé avec l'Australie. Est-ce que ça aussi, c'est une manière pour la Maison-Blanche d'étendre et de rechercher de nouveaux soutiens dans cette région, encore une fois, face à la Chine?
Oui, bien sûr. Vous avez raison de souligner l'importance de l'accord AUKUS entre les Britanniques, les États-Unis et les Australiens sur le transfert de technologies nucléaires et sur la vente de sous-marins nucléaires à Canberra. Les Américains semblent aller davantage vers une logique qui est à la pièce. Hein. Ils identifient les acteurs dans cette région qui sont prêts véritablement à coopérer avec la Maison-Blanche dans le but de barrer le passage à la Chine. Donc, on met l'accent sur l'Australie pour des raisons évidentes. L'Australie est un allié fidèle de toujours, de Washington. Les Britanniques souhaitent aussi être dans le coup, si je puis dire, pour des raisons encore là géostratégiques. Mais dans le cas de l'ASEAN, je pense que Biden cherchera à intensifier des relations bilatérales avec certains des joueurs. C'est ce qu'il cherchera à sonder aujourd'hui, c'est-à-dire l'intérêt réel de certains des membres de l'ASEAN à se rapprocher des positions américaines, sachant que l'ASEAN, c'est une simple association d'États qui font du business essentiellement. Et donc, il n'y a pas vraiment de noyau dur. Ce n'est pas comme l'OTAN, par exemple. Ce n'est pas une organisation très centralisée.
Le business avant tout, il nous reste un tout petit peu moins d'une minute, Jonathan Paquin. C'est pour ça que donc des initiatives ont été annoncées, 150 millions de dollars sur des domaines très spécifiques. C'est extrêmement peu, on peut le dire, hein, face à ce qu'investit la Chine avec les pays de l'ASEAN. Il s'est d'ailleurs devenu Pékin le premier partenaire commercial de l'ASEAN.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que depuis plusieurs jours, l'administration Biden y va de plusieurs communiqués de presse pour montrer l'importance que Washington accorde aux États de l'ASEAN. Alors, on parle de 150 millions de dollars pour les infrastructures, pour la sécurité, pour lutter contre la pandémie dans cette région du monde. Le président Biden était aussi très heureux de rappeler que son administration a fait une demande au Congrès américain pour l'exercice financier de 2023, une demande de 800 millions de dollars d'aide bilatérale qui sera accordée donc à certains de ses membres de l'ASEAN. Mais fondamentalement, ce que ça nous montre, c'est que c'est une administration qui cherche à faire la démonstration qu'elle aussi contribue et participe au développement de l'ASEAN dans un contexte où, vous l'avez dit, c'est la Chine véritablement qui investit le plus dans cette région du monde pour des raisons évidentes. C'est son étranger proche.
Et du coup, donc, chacun montre les muscles comme il le peut. Merci beaucoup, Jonathan Paquin, de l'Université de Laval, à Québec, d'avoir été en ligne avec nous. Il est à présent 9h et presque 19 minutes à Santiago, au Chili. RFI. Le Chili, où une annonce hier a refait descendre dans la rue des gens. Écoutez.
Una información que ya ha sido confirmada desde la posta central, la muerte de la periodista Francisca Sandoval.
La mort de Francisca Sandoval. Bonjour Christophe Pagé.
Bonjour.
Cette journaliste avait été blessée par balle lors des manifestations du 1er mai.
Oui, les journalistes âgés d'une trentaine d'années avaient été grièvement blessés à la tête. En tout, deux femmes et un homme ont été touchés ce jour-là, blessés par des tirs de groupe liés aux organisations criminelles qui contrôlent l'espace public pour leur commerce informel, rappelle la Tercera. Après l'annonce de la mort de la journaliste, des manifestants se sont réunis sur la Plaza Italia de Santiago, rapporte Emol, affichant des posters demandant justice pour Francisca Sandoval. Une justice que demandent aussi les politiques chiliens, dont le journal a recueilli les réactions. Sur son compte Twitter, le président Gabriel Boric s'est voulu ferme. Nous ne permettrons pas l'impunité, la violence nuit à la démocratie. De fait, note Diario del Día, Francisca Sandoval est la première journaliste à être assassinée au Chili en période de démocratie. Son meurtrier présumé est en détention préventive.
Et que justice soit faite, a bien insisté hier face à la presse la sénatrice Fabiola Campilé.
Aujourd'hui, nous réclamons justice. Nous réclamons la fin de l'impunité. Aujourd'hui, nous avons perdu Francisca. Nous devons apporter soutien et protection aux médias indépendants. On leur doit notre respect pour l'ensemble du travail qu'ils fournissent jour après jour pour nous informer. Ils sont dans les rues, sur le terrain, pour nous apporter des informations fiables et sans filtre. Nous voulons savoir la vérité, nous voulons savoir ce qui s'est passé.
Et dans son éditorial, Christophe Laterceira souligne l'indignation des Chiliens donc devant la mort de la journaliste.
Une mort qui, estime le journal, souligne la nécessité impérieuse de combattre les dangereuses mafias qui prolifèrent dans tout le pays, particulièrement dans le quartier de Meix, où la journaliste a été blessée et qui avait fait l'objet d'une série d'enquêtes journalistiques. Le journal y voit une tentative claire d'intimider les journalistes et d'entraver leur mission d'informer et de dire la vérité.
Et je le disais, donc la nouvelle de son décès a poussé des personnes à se réunir pour déveiller. Des barricades ont aussi été érigées par endroits. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. On prend la direction de la Colombie, Christophe, pays en pointe, puisqu'il devient le premier pays d'Amérique latine à dépénaliser le suicide assisté par médicament. Décision hier de la Cour constitutionnelle.
Oui, elle reconnaît le suicide assisté comme un moyen pour accéder à une mort digne. Dans le suicide assisté, contrairement à l'euthanasie, c'est le patient qui exécute l'action finale pour mettre fin à ses jours, explique El Tiempo. Et dorénavant, l'aide apportée par un médecin ne sera plus considérée comme un délit. Le médecin ne sera pas poursuivi. Une première, vous l'avez dit, en Amérique latine. Jusqu'ici, les médecins chiliens risquaient entre 16 et 36 mois de prison, détaille El Espectador. Cette pénalisation, selon la Cour, affectait les droits à une vie digne et à l'autonomie des personnes, rapporte El Tiempo. Pour autant, pour bénéficier du suicide assisté, toute une série de conditions doivent être remplies, souligne Semana. Le patient doit souffrir de maladies incurables ou d'une extrême gravité. Mais, rapporte El Heraldo, l'Église catholique de Colombie a rejeté ce jeudi la dépénalisation du suicide assisté.
En Argentine, des caravanes de piqueteros venues des quatre coins du pays ont convergé vers Buenos Aires hier. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté pour exiger des mesures urgentes afin de lutter contre la pauvreté et l'inflation. Théo Conscience était sur place.
La place de Mai à Buenos Aires était une fois de plus noire de monde hier. À l'appel d'un large éventail de syndicats et d'organisations de gauche, la marche fédérale pour le travail et les salaires et contre la faim et la pauvreté a rassemblé des dizaines de milliers de manifestants comme Zulema Aguirre, qui a traversé plus de 1200 km depuis la province de Rio Negro pour venir exprimer sa colère.
Il n'y a pas de travail. Il y a des générations qui ne savent pas ce que c'est que d'avoir un emploi formel. Donc on arrive à un point où il y a un ras-le-bol généralisé.
En Argentine, plus d'un tiers de la population active appartient à l'économie informelle et n'a donc pas accès à des revenus réguliers ou à une couverture sociale. Selon Jessica Gentile, le gouvernement doit revoir ses priorités pour offrir des solutions à ces millions de travailleurs précarisés.
La moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté et pourtant on continue à payer des millions de dollars au Fonds monétaire international, au détriment des secteurs les plus vulnérables et des travailleurs.
Une colère également alimentée par la flambée inflationniste qui grignote le pouvoir d'achat des plus modestes. Sur les 12 derniers mois, le coût de la vie a augmenté de 58% en Argentine, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis le début des années 90. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
De l'Argentine au Canada, autre manifestation hier. rassemblement annuel des pro-life, les anti-IVG, alors qu'aux États-Unis, Christophe, on craint toujours un recul du droit à l'avortement.
Oui, donc là, à Ottawa, on les entend, quelques milliers de manifestants se sont rassemblés sur la colline du Parlement, ravis que l'arrêt Roe versus Wade, et donc le droit à l'avortement, soit en danger aux États-Unis, rapporte le National Post, citant le président d'un groupe anti-avortement qui, parlant devant la foule, a espéré que les politiciens canadiens fassent de même. La presse rappelle qu'au contraire, le Premier ministre Justin Trudeau a évoqué une loi protégeant le droit à l'avortement.
Et en marge de ce rassemblement, quelques dizaines de manifestants pro-avortement cette fois-ci.
Et ce sont précisément ces voix que du côté des États-Unis, certains républicains veulent faire taire. Depuis que le projet d'arrêt de la Cour suprême a été révélé, beaucoup sont descendus dans la rue, y compris pour manifester devant les maisons des juges conservateurs. Du coup, rapporte le Boston Globe, les gouverneurs républicains du Maryland et de Virginie ont envoyé une lettre au procureur général affirmant que ces manifestations violaient un statut fédéral interdisant de tenter d'influencer les arrêtés des juges en manifestant près de chez eux. Réponse du Boston Globe, manifester est une réponse à la douleur ressentie devant l'injustice. Cela a été un moteur pour toutes les grandes avancées qu'a connues ce pays. Pour cette raison, c'est en général un des premiers droits réprimés par les régimes autoritaires.
Enfin, Christophe, un mot de ce naufrage hier d'un bateau de migrants haïtiens et dominicains au large de Porto Rico.
Bilan au moins 13 morts, quelques dizaines de passagers ont pu être secourus, rapporte le New York Times. On ne sait pas pour le moment combien de personnes étaient à bord, écrit Réseau Nord-Ouest, qui cite les gardes-côtes. C'est ce dont nous parlons depuis des semaines. Il s'agit de bateaux de fabrication artisanale, surchargés, qui ne sont pas en état de naviguer et qui ne disposent d'aucun équipement de sauvetage à bord. Selon le New York Times, l'embarcation venait de la République dominicaine et naviguait dans une passe difficile située à l'ouest de Porto Rico quand elle a été repérée.
Christophe Paget pour la presse, merci.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Tiziana Maron, bonjour.
Bonjour, Michael.
En Guadeloupe, en moins de 20 ans, plusieurs zones du département pourraient bien être impactées par l'érosion.
C'est ce qu'indique le GIEC, le groupement d'experts pour le climat, dans son dernier bilan. Il lance l'alerte de submersion pour le département. L'île Carrette, par exemple, joyeux de l'archipel, est l'illustration concrète de l'érosion grandissante. Hier, différents représentants de l'environnement s'y sont rendus pour acter un projet d'aménagement et de préservation du site. Xavier Leloup, chef du projet marin au Parc national de Guadeloupe, au micro Guadeloupe la première.
On va mettre en place des outils pour protéger la végétation. On va renforcer, mettre des arbres. Il ne faut pas des cocotiers, ce n'est pas une bonne espèce. Donc on mettra plutôt des catalpas, des résiniers. Et la végétation qui s'est installée naturellement et qui a été renforcée parce qu'il n'y avait personne pendant la période du confinement. On mettra aussi des panneaux d'information pour expliquer tout ça aux gens, qu'on est dans un mode d'adaptation parce que l'île se déplace beaucoup. On va mettre en place des aménagements, des équipements, à la fois pour accueillir puis pour protéger la biodiversité et s'adapter au changement climatique.
Une menace qui pèse évidemment sur la biodiversité. Plusieurs espèces animales endémiques de la Guadeloupe sont désormais classées en danger critique d'extinction. En Guyane, un exercice militaire grandeur nature s'est déroulé hier à l'aérodrome de Saint-Laurent-du-Maroni. Les forces armées de terre et de l'air ont simulé l'évacuation de 2 soldats blessés vers l'hôpital de Cayenne. Un exercice qui a davantage de sens en cette période, comme l'explique le chef du détachement de l'armée de l'air, engagé dans cet exercice.
L'objectif, il est affiché au plus haut niveau de notre commandement, parce qu'on a encore eu des consignes de notre chef d'état-major des armées, qui dit qu'il faut se préparer à une guerre de haute intensité, qui allait revenir en Europe aux portes de la France. Donc le but, c'est de travailler sur la rusticité, sur les process inhabituels, pour se tenir prêt à un conflit. Donc le retour d'expérience va être important à exploiter. On a vu le temps de déploiement qui est important, les concessions à faire, donc tout ça c'est pris en compte.
Le commandant Aurélien au micro de Terence Moy de Guyane la première. En Martinique, les journées du patrimoine culturel immatériel se poursuivent dans la commune de Fonds-Saint-Denis, au nord-est de l'île, avec des conférences et des ateliers d'initiation. Des ultramarins venus des autres départements ont été conviés à participer aux ateliers de découverte des traditions, notamment le lawabef, une pratique agricole ancestrale qui consiste à labourer la terre tout en chantant.
Nous avons une culture et c'est nous-mêmes qui devons être porteurs de cette culture, qui devons l'organiser, qui devons la sauvegarder pour la transmettre à nos enfants. Donc les objectifs de ces journées qui ont été commandées par le ministère de la Culture, c'est vraiment de nous poser la question, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas louper quand on pense que un de nos savoir-être, de nos savoir-faire est en danger. L'important aussi, c'est de se rendre compte que nous sommes un mélange de plein de petites choses qu'il faut sauvegarder parce que demain, cette histoire de normalisation du monde, eh ben, nous tue.
Léa Bobineau au micro de Martinique la Première et c'est la fin de cette édition. Bonne journée.
Merci beaucoup Tiziana, merci à Hélène Avril qui est à la réalisation de ce rendez-vous. À la semaine.